Les par actualités.
Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Les Paractualités, édition du 14 mars 2018. En manchette aujourd'hui, une douche froide pour l'avancement de la recherche contre la SLA. Un martini avec Madeleine. Aussi Brian McKeever, roi des athlètes paralympiques. Un record de billets vendus pour les Jeux paralympiques de Pyeongchang. Mes invités aujourd'hui, Alain Foucault, grand-père de Jacob et membre du regroupement pour la trisomie 21. Et Pascal Pinsonneau, orthophoniste à l'Institut Raymond de Ouart, qui fait partie du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Une douche froide pour l'avancement de la recherche contre la SLA. C'est une nouvelle tirée de Radio-Canada. Pour freiner une maladie, il faut d'abord comprendre ses origines. Voilà précisément ce qui empêche actuellement près de 3000 Canadiens atteints de la sclérose latérale amyotrophique SLA d'obtenir les traitements dont ils auraient tant besoin pour retarder ou mieux encore éviter la fatalité. La recherche progresse, mais beaucoup de travail reste encore à faire. Le rythme auquel se font les avancées scientifiques est étroitement lié au financement disponible pour la recherche. En 2015, les Canadiens ont participé massivement à la campagne de financement du saut d'eau glacée, mieux connu sous le nom de Ice Bucket Challenge. Cette douche froide qui paralyse le corps l'espace d'un instant rappelle ce que vivent au quotidien ceux qui ont perdu l'usage de leurs membres en raison de la SLA. La campagne virale sur les médias sociaux aura permis à la SLA Canada d'amasser plus de 17 millions de dollars, du jamais vu pour l'organisme de bienfaisance. Cette vague de générosité envers SLA Canada s'est cependant vite essoufflée pour revenir à un niveau plus habituel. SLA Canada estime que la recherche a progressé plus rapidement dans les 5 à 7 dernières années que dans tout le siècle dernier. Le vice-président à la recherche chez SLA Canada compare la maladie à un casse-tête de milliers de morceaux. Le fait que la maladie est considérée comme rare nuit, en quelque sorte, aux efforts d'éradication. Un martini avec Madeleine, c'est dans la presse sous la plume de Rima El-Khoury. Ce n'est pas pour me vanter, mais je fais un très bon martini. En veux-tu un? Je ne bois jamais en travaillant. Mais j'ai fait une exception pour Madeleine. Madeleine Antonio Sauvé a 99 ans. J'avais rendez-vous avec elle un lundi à 16h à l'heure de son happy hour quotidien. Lorsque je suis entrée dans son appartement du quartier Côte-des-Neiges, Madeleine avait un martini posé sur la petite table à côté de son fauteuil. La télé était allumée. J'écoutais Trump, cet imbécile, a-t-elle lancé de sa voix éraillée. En une heure, elle m'a raconté 100 ans. Son mariage alors qu'elle était toute jeune, son père, originaire de Kastoria en Grèce, dont elle a hérité des gènes méditerranéens de longévité. Sa soif de vivre, d'aider, d'apprendre, de bouger, ses trois fils qui ont entre 72 et 80 ans, qui lui ont donné 26 descendants. Les photos de remise de diplôme en noir et blanc de ses garçons sont accrochées au mur de son salon. Elle ne peut plus les voir, mais elle sait qu'ils sont là. Quelles sont là les photos. Elle en parle avec fierté. Tant qu'elle l'a pu, Madeleine a fait du bénévolat auprès de personnes âgées, souvent âgées de 20 ans de moins qu'elle. Rien ne me fait plus plaisir que de rendre service. Comme elle ne peut plus lire, elle écoute des livres audio que lui propose l'organisme INCA, qui vient en aide aux personnes aveugles. Elle aime particulièrement l'œuvre de Michel Tremblay. Elle aime aussi découvrir des livres d'histoire et de philosophie. Tous les dimanches, elle prend plaisir à parler au téléphone avec son arrière-petite-fille Catherine Jeanne qui étudie le droit à Québec. « C'est la future avocate », dit-elle fièrement. « Chaque semaine jusqu'au 21 mars, Journée mondiale de la trisomie 21, on parle d'un thème de la vie d'un jeune vivant avec la trisomie 21 avec un membre de sa famille. Alors, la Journée mondiale de la trisomie s'en vient dans une semaine, jour pour jour. La 8e capsule vidéo d'une série de 10 a été réalisée, comme toujours, par le regroupement pour la trisomie 21 et met en vedette Alain Foucault, grand-père de Jacob. Et cette capsule porte sur le thème « Réseaux sociaux, entourage ». Bonjour, Monsieur Foucault.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en cette journée de neige.
Oui, bien merci de m'appeler. On a du temps, étant donné que la neige est présente. Ça nous donne l'occasion de faire l'entrevue.
Oui. Alors, ça nous ralentit un peu et c'est presque tant mieux. On pense aussi aux automobilistes. Peut-être qu'ils la trouvent moins drôle, mais ça, c'est une autre histoire. Monsieur Foucault, comment vous vous impliquez auprès de votre petit-fils Jacob et de ses parents?
Petit-fils Jacob, ben Jacob, c'est sûr qu'on s'implique en... On aide sans se forcer.
Quand vous dites « on », est-ce que vous parlez aussi de votre épouse?
Oui, mon épouse.
D'accord.
Ma conjointe. Alors, on va chercher Jacob à la garderie une fois par semaine et plus, minimum.
Oui.
À l'occasion, il n'y a pas de journée officielle, sauf que les journées qu'on se libère. Et puis, on l'apporte ici vers 4 heures, et puis on en prend soin. Mais c'est facile de prendre soin de Jacob.
Oui, donc, Jacob a quel âge?
Il a 5 ans.
Et est-ce que vous avez été confronté à l'incompréhension, au jugement de l'entourage, de votre entourage devant la trisomie de Jacob?
Je dirais que non, on ne le ressent pas. C'est sûr qu'à 5 ans, c'est un beau petit gars, là. Je veux dire, il n'y a pas de autre chose que le trisomique qui n'est pas beaucoup apparente. Ça doit quand même être...
Alors, vous pensez que ça joue, que ça pèse dans la balance?
Je crois que oui. Ouais. Je crois que oui, car on sait que l'intimidation d'un enfant, souvent, c'est physique. Et Jacob, c'est sûr que son vocabulaire, il paraît, mais quand il parle, sinon, c'est comme... Ça va bien dans son cas. Là.
Vous dites que ça paraît dans son vocabulaire. De quelle façon son vocabulaire est...
Il va faire... À chaque fois qu'il fait une phrase, il va dire Jacob avant, ensuite il fait sa phrase. C'est coupé, hein? Vous savez, c'est comme c'est très, très, très coupé. C'est dur, pas facile à comprendre. Nous, on le comprend un peu à 80, peut-être à 50%. Mm-hmm. Mais il y a des gens quand ils l'écoutent. Mais il parle beaucoup. Il fait beaucoup de gestes avec ses mains, heureusement.
Oui, il arrive à se faire comprendre.
Oui, sa mère y a montré quand même à faire des gestes. Donc ils ont beaucoup d'informations, les parents, maintenant, face à face à la trisomie. Disons que déjà, avec les oui-dire de tout le monde, que c'était caché, la trisomie. Maintenant, je dirais que c'est un plus. C'est valorisant d'une part, parce que même je vais chez mes parents qui sont encore là, mes frères, on est une grosse famille, et Jacob, c'est un... il est bienvenu partout.
Ah oui, c'est la petite star dans la famille.
Oui, la petite star. Puis je dirais que quand on va le chercher à la garderie, encore ses amis connaissent beaucoup Jacob. Les parents connaissent Jacob, étant donné qu'il est évidemment différent.
Donc, vous ne souffrez pas d'isolement, ni en ce qui concerne les parents, ni en ce qui concerne les grands-parents ou l'entourage, par rapport à la trisomie de Jacob?
Non, on ne fera pas d'isolement. On va quand même essayer de lui faire toutes sortes de choses, de l'impliquer dans tout. Disons que sa mère en fait beaucoup et mon fils aussi, Sébastien, qui est le père, on l'amène dans tout partout ce qu'on veut aller. Puis il est plaisant, finalement. Je vous dirais que c'est un enfant facile qui n'est pas demandant.
Ouais.
Ils ont tous cette qualité-là, non demandant. Donc, ils ont faim, ils diront pas. Disons que c'est toutes ces choses-là, vous comprenez. Ils sont très durs sur leur corps. Je pense qu'ils ont plus d'endurance qu'un autre enfant face à leur physique.
Mm-hmm.
Donc, ça fait un enfant qui pleure pas, il est calme quand même, mais il aime bien jouer, c'est sûr, c'est normal.
Ben oui, comme tout enfant.
Tout enfant. Et puis, c'est que là, moi, d'une part, j'ai la chance de travailler à mon compte, donc je peux... je fais un petit peu de rénovation dans la maison, je l'implique. J'y monte physiquement à faire des choses comme... Je vous dirais qu'une drille à batterie, il apprend dans ses mains, puis il va visser une vis.
Ah oui?
Oui, mais c'est sûr que... Puis il est fort, donc ça a l'avantage. Il est assez...
Costaud, musclé.
Il est fort, mais il a une taille normale, mais... beaucoup d'activités. Puis même, je t'apprends, écoutez, on a un cœur de golf dans le cours ici. J'ai quand même une cour assez grande.
J'imagine.
J'ai des avantages à ça. Fait que j'y monte à conduire. C'est sûr qu'il n'est pas concentré. Là. Écoutez, là, il va regarder partout, puis il va me parler. Puis il se concentre sur la route un peu, mais il ne se sent plus là.
Mm-hmm. Mais, vous lui apprenez à conduire...
Un cœur de golf.
OK, d'accord. Golf. Oui.
Ouais. C'est ça. Puis, je veux dire qu'il aime ça. À chaque fois qu'il vient ici, pour lui, c'est comme, même à cet instant-ci de l'année, j'ai fait des traces dans la neige pour fonctionner avec. Mais le petit, il sait toutes les activités qu'il peut faire. On l'implique.
Ben oui, il a l'air d'être très stimulé, pas laissé du tout à lui-même. Est-ce qu'il vous arrive, à vous ou aux parents de Jacob, d'échanger avec d'autres familles qui vivent une situation similaire à la vôtre?
Oui. Suzy est beaucoup impliquée dans toutes les ressources pour la trisomie 21. Même, je pense que, écoutez, je ne sais pas trop à quel point qu'elle est membre d'un chambre de, comment est-ce qu'on pourrait dire?
D'un regroupement.
D'un regroupement, voilà. Mm-hmm. Elle va toutes les conférences. Elle suit beaucoup. C'est une Portugaise, sa mère. C'est Julie Costa.
Ah oui. Alors, on la salue.
C'est pas Julie, excusez, Suzy Costa. Elle est portugaise et ces gens-là, vous savez que c'est des gens de famille, des gens pieux, évidemment.
Oui.
Et donc, elle donne beaucoup d'informations, puis je constate que c'est un plus pour Jacob. Puis nous, on essaie de faire notre bout de chemin à travers ça, mais on sent pas que Suzy a de la fatigue. Sébastien non plus, ils font pas, ils demandent pas. C'est pas des parents qui vont demander, mais moi, personnellement, je veux avoir Jacob souvent, et Lise, ma conjointe aussi, on aime l'avoir avec
nous. Un petit garçon attachant et qui semble être très, très aimé. On ira acheter un coup d'œil à la vidéo, à la capsule à laquelle vous avez participé sur le site de trisomie.qc.ca. Un grand merci pour cette entrevue, Alain Foucault, puis bonne journée dans la neige, peut-être avec Jacob aujourd'hui?
Oui, je pense qu'on va aller chercher à garder les justement fin de journée, idéalement. Là, pour moi, sa mère, elle nous entend, je fais que j'ai fait le message.
Mais passez une belle journée.
Merci pour l'entrevue, c'est plaisant.
Merci.
Au revoir.
Dans le soleil, Brian McKeever a écrit une page d'histoire en remportant une 14e médaille paralympique en carrière lundi aux Jeux paralympiques de Pyeongchang, porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie d'ouverture. L'Albertain de 38 ans a enrichi son palmarès en remportant la médaille d'or aux 20 km hommes, catégorie déficience visuelle en ski de fond avec ses guides. McKeever a surpassé la skieuse Lana Spriman, qui avait remporté 13 médailles en carrière. Il est ainsi devenu l'athlète canadien le plus décoré de l'histoire des Jeux paralympiques d'hiver. Participant à ses 5e paralympiques, McKeever compte 11 médailles d'or dans sa collection, soit 3 de plus que Lauren Wolfsten-Croft, l'athlète paralympique d'hiver canadienne qui le suit au classement des athlètes les plus décorés. « Je n'étais pas au courant de ce record, mais c'est vraiment formidable », a dit McKeever. En réponse à un article paru le 8 mars 2018 dans le quotidien Journal de Montréal et diffusé sur TVA Nouvelles au sujet d'un patient qui a séjourné à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont récemment, le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, jugeant que plusieurs éléments fondamentaux d'information sont erronés dans ces articles, tient donc à rectifier les faits. En aucun cas, l'hôpital ne va placer un patient au sous-sol. Il peut par contre arriver que des patients en attente d'un lit soient dirigés vers l'unité d'hospitalisation transitoire. Cette unité n'est toutefois pas située au sous-sol ni près de la morgue. Les patients de cette unité font l'objet d'une surveillance adaptée à leur état de santé de la part du personnel. Tous les patients ont accès à une cloche d'appel afin d'obtenir les soins requis ou interpeller le personnel pour tout besoin. Une analyse de cette situation sera faite afin d'identifier les correctifs éventuels qui pourraient être apportés s'il y a lieu. Le patient est contacté afin de faire un suivi de la situation pour laquelle il a contacté les médias. Le CIUS de l'Est de l'île de Montréal a le bien-être de ses usagers et patients à cœur et réitère son engagement à prodiguer des soins de qualité dans un esprit de respect et d'humanité. Alors, on parle des interventions liées aux troubles du langage chez l'enfant en compagnie de Pascal Pinsonneau, orthophoniste à l'Institut Raymond de Ouart, un centre de réadaptation qui fait partie du CIUS de Centre-Sud de l'île de Montréal. Bonjour, Madame Pinsonneau.
Oui, bonjour.
Merci de vous être déplacée en cette journée de neige. Alors, quels sont les services que vous offrez plus particulièrement?
Donc, à l'Institut Raymond de Ouart, on est un centre de réadaptation spécialisé en surdité et en communication. Moi, je travaille dans un programme où les enfants qui fréquentent le programme sont âgés entre 0 et 25 ans. Ma clientèle en orthophonie, notre grande clientèle, c'est surtout des enfants d'âge préscolaire qui approchent aussi l'entrée scolaire. On peut offrir des services à nos adolescents, nos enfants plus âgés, même les jeunes adultes. Mais dans le cadre de mon travail, je suis amenée à travailler surtout avec de jeunes enfants et leurs famille pour rééduquer leur langage et leur communication.
Et justement, quels sont les troubles du langage que vous traitez?
Alors, les enfants qui sont admis chez nous, ils sont passés par d'abord une première évaluation. On a soupçonné que des difficultés qui pouvaient persister étaient présentes au niveau du langage, de la communication. Alors, on nous les réfère et souvent, ce sont des enfants qui ont des troubles qu'on appelle un trouble développemental du langage ou une hypothèse de trouble développemental du langage. Des enfants qui sont parfaitement bien développés, mais au niveau du langage, de la communication, c'est vraiment leur grand défi.
Quel genre de trouble?
Alors, on va avoir des enfants qui vont avoir de la difficulté à construire des phrases, à acquérir du vocabulaire, à retenir les mots.
Le bégaiement, est-ce que ça fait partie des troubles du langage?
Non, en fait, non. Ça va être une autre problématique. Il y a une autre équipe d'orthophonistes et de professionnels qui s'occupent du bégaiement. Nous, c'est vraiment le langage. Alors, tout ce qu'on parle du langage expressif, apprendre à construire des phrases, à bien prononcer les mots, à comprendre aussi. Tout le volet réceptif. Donc, vraiment en lien avec le langage, ces enfants-là comprennent vraiment bien avec leurs yeux. Ils sont très communicatifs, mais des fois, quand on passe uniquement par le langage, ils ont de la difficulté à comprendre nos questions, des consignes plus longues ou des concepts qui vont être plus abstraits.
Alors, comment ça s'explique, ces troubles de langage-là?
Alors, c'est une fragilité neurologique. Donc, ça passe par le cerveau. Il peut y avoir parfois une composante héréditaire, parfois non. Alors, des fois, c'est présent dans la famille, mais à plusieurs reprises, ça ne l'est pas.
Ah ouais. Et comment vous travaillez avec eux pour justement régler leurs problèmes? Est-ce qu'on arrive à complètement... justement, régler le problème.
En fait, la trajectoire des enfants qui fréquentent l'IRD va être très différente d'un enfant à l'autre. On a des enfants qui vont présenter toute leur vie des défis au niveau de la communication, du langage. Ce sont des adultes ou des adolescents qui vont avoir la difficulté à s'adapter avec leurs copains au niveau de l'humour, à trouver leurs mots, à organiser leurs pensées. On en a d'autres qui vont évoluer plutôt favorablement. C'est difficile de prévoir un petit peu là, quelle sera la trajectoire de chaque enfant parce que les difficultés de langage ne sont pas les seuls critères là, qui déterminent l'évolution de l'enfant.
Le jeu fait partie des moyens de les aider à justement voir peut-être résorber ces troubles de langage-là?
Évidemment. On parle d'enfants d'âge préscolaire dans la majorité des cas pour ma clientèle. Alors, il faut passer par le jeu. On parle d'enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, il faut que ça soit ludique. Il faut que l'enfant ait un intérêt. Et nous, on va aller rééduquer des aspects très spécifiques de leur langage, de leur communication. On veut en faire des bons communicateurs. Et on va utiliser vraiment des moyens ludiques, des moyens
comme quoi, par exemple?
Alors, pour un enfant qui aurait de la difficulté, par exemple, à acquérir des verbes d'action variés, diversifiés pour pouvoir créer des phrases, alors on peut lui faire toutes sortes d'actions dans notre local, glisser, sauter, grimper.
Vous l'invitez à nommer ce qu'il fait?
Oui, alors on va être vraiment dans l'action. On va faire parfois à tour de rôle un petit parcours où on va nommer nos verbes d'action et on travaille toujours avec le parent. Le parent est avec nous dans le local, refait les mêmes choses. On veut qu'il soit, dans le fond, qu'il soit...
impliqué.
Tout à fait.
Oui.
Parce qu'une heure en orthophonie par semaine, c'est pas assez, c'est vraiment au quotidien. Alors, ce qu'on veut, c'est que le parent soit un guide et puisse reprendre et avoir une idée de ce qui va aider son enfant.
Oui, que ça se poursuive toujours, que ça continue à la maison et partout où l'enfant se trouve.
Tout à fait.
Et vous travaillez pas seul, là. Il y a une équipe multidisciplinaire.
Oui, tout à fait. On a une belle équipe. Alors, on a parlé de, bon, des orthophonistes concernant le langage et la communication, mais nos jeunes peuvent avoir aussi des difficultés dans d'autres sphères de leur développement. Donc, en ergothérapie, on a nos ergothérapeutes qui peuvent travailler l'autonomie de nos enfants, la motricité fine, entre autres. On a nos éducateurs spécialisés, psychoéducateurs, qui vont aider les familles à s'adapter aux comportements qui peuvent être parfois difficiles de ces enfants-là, qui vivent des frustrations de ne pas pouvoir se faire comprendre, qui ont de la difficulté à tolérer certains changements. Alors, au niveau de la routine familiale, des fois, il y a des ajustements. On a nos psychologues, des fois, qui ont besoin d'aller gérer au niveau des émotions, faire un suivi affectif avec ces enfants-là, une travailleuse sociale, un audiologiste. Alors, on est entouré d'une belle équipe là, pour répondre aux besoins des familles. Oui.
Quelqu'un qui sera à l'écoute avec un enfant qui a des troubles de langage et qui serait intéressé à aller faire un tour chez vous. Comment, est-ce qu'il y a des délais d'attente? Comment on peut s'inscrire?
D'accord. Alors, d'une part, ça nous prend une première évaluation. La première évaluation peut se faire par le CLSC. Donc, la porte d'entrée, c'est souvent le CLSC. Dès qu'on a des inquiétudes concernant le développement du langage de notre enfant, il faut passer par le CLSC. On a des jeunes qui nous arrivent aussi de l'hôpital, qui est aussi une première ligne, ou de la clinique privée. Mais ce que ça nous prend, c'est un premier rapport, une évaluation qui montre que il y aurait un soupçon là, de difficultés qui pourraient être persistantes et assez significatives pour avoir besoin d'une rééducation à plus long terme dans une institution de deuxième ligne comme le nôtre.
Est-ce que c'est long avant d'avoir une réponse quand on devient admissible?
Bien, en fait, les services à l'IRD, on est chanceux parce que depuis quelques années, on a changé un peu nos façons de faire et la prise en charge se fait rapidement. Donc, il peut y avoir des listes d'attente qui varient, mais on est fiers de pouvoir répondre rapidement aux besoins des familles. Par contre, dans le réseau de la santé, on le sait, hein, il peut y avoir des inégalités. Donc, des fois, c'est avant d'avoir la première évaluation que les parents nous disent avoir eu des délais d'attente. Ça, on peut pas le contrôler, malheureusement. Mm-hmm.
Vous traitez combien d'enfants environ?
Écoutez, c'est à chaque semaine, vous voulez dire dans mon
oui,
quotidien.
Oui, dans votre cas.
Alors, moi, je peux voir de 3 à 4 enfants par jour. Et ça implique d'avoir préparé la thérapie en lien avec des objectifs précis.
De différents âges.
Avoir beaucoup de matériel. Pour certains enfants, c'est très facile. J'ai peu de matériel. C'est un enfant qui peut rester assis à la table. Et dans d'autres cas, j'ai besoin de voitures, de glissades, de trampolines. Alors, ça peut être...
Cas par cas, beaucoup de préparation pour chaque enfant. Là. Ils ont vraiment un service personnalisé, si je peux dire.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, Pascal Pinsonneau, ça a été vraiment intéressant. Orthophoniste à l'Institut Raymond Devoir, centre de réadaptation, qui fait partie du CIUS 3S, ou CIUS, j'ai prononcé les 3S, j'ai un trouble de langage, moi aussi, de Centre-Sud de l'île de Montréal. Un grand merci
ça
de vous être déplacé.
Merci.
Bonne journée. Décès de Stephen Hawking, l'homme qui a défié son handicap. Atteint de la maladie de Lou Gehrig, diagnostiqué dès 1964, le Britannique Stephen Hawking n'a cessé tout au long de sa vie de défier son handicap, trouvant des moyens alternatifs pour communiquer et devenant un scientifique de renommée mondiale. « Mes espoirs ont été réduits à zéro quand j'avais 21 ans. Tout ce qui est arrivé depuis n'est que du bonus », déclarait-il au New York Times en 2004 en faisant référence à sa maladie. La maladie l'avait progressivement privé de mobilité et confiné dans un fauteuil roulant, presque complètement paralysé et incapable de parler, sauf à travers un synthétiseur vocal. Malgré son handicap, le scientifique a su multiplier les supports pour partager ses découvertes sur les secrets de l'univers. « C'est ce soir à 18h30 au Centre culturel Marie Fitzbach à Saint-Georges que se tiendra un café-conférence sur le thème de la maltraitance envers les aînés. L'événement est organisé par le comité des résidents du CHSLD Richard Busque et sera animé par Ninon Bourque, chef de programme Milieu de vie et loisirs au CI3S de Chaudière-Appalaches. Oser aborder le thème de la maltraitance collectivement nous permet de mieux comprendre sous quelle forme elle apparaît et comment elle peut être décelée, a-t-elle indiqué. Et dimanche dernier, à Québec, près de 200 personnes ont assisté à un concert bénéfice au profit d'Eman Derbali, un survivant de l'attentat à la Grande Mosquée qui est depuis confiné à un fauteuil roulant. L'événement qui se tenait à la cathédrale anglicane Holy Trinity dans le Vieux-Québec a permis de recueillir plus de 3 000 $. Ce montant s'ajoute à plus de 400 000 $ qui ont été récoltés par des dons publics. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson et Maurice Bolduc, ainsi qu'à mes invités, Alain Foucault et Madame Pinsonneau-Pascal de son prénom.